Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Comment tracer son propre chemin sans être dans l'ombre de ses parents lorsqu'on est fils d'eux ou fille d'eux? Les vocations se transmettent-elles de génération en génération? Comment vit-on lorsque l'on est l'enfant d'une personne admirée, d'un entrepreneur de génie ou d'une grande actrice sans pour autant atteindre soi-même un succès identique? Est-ce que le nom de famille peut être un fardeau? Quel est le poids de l'héritage dans les choix de vie personnelle ou professionnelle, l'envie de le faire perdurer, mais aussi le besoin d'émancipation, la liberté d'être soi-même et la recherche d'un équilibre entre désir profond et désir transmis? Autant de questions sur les choix de vie confrontés à la loyauté familiale auxquelles Philippe Spanghero tente de répondre dans une belle réflexion existentielle qui nous concerne tous, dans son livre « Au nom du clan, entre héritage, transmission et loyauté, comment écrire son histoire » paru aux éditions Alizio tout récemment, le 4 septembre 2025. J'ai donc le plaisir d'accueillir son auteur. Bonjour Philippe Spanghero.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Parole d'auteur. Je salue nos fidèles auditeurs en leur précisant à nouveau qu'ils pourront retrouver cette émission sur toutes les grandes plateformes numériques. Première question qui est en rapport avec votre livre, mais pas directement, pas le début, mais ça permettra aux auditeurs de comprendre un petit peu plus tard. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la petite mort ?
La petite mort ?
Oui.
Alors, il y a beaucoup d'univers dans lesquels on parle de la petite mort. C'est, alors en rugby, puisque c'est ce qui me concerne et c'est ce dont je parle un peu dans le livre, la petite mort, c'est cet arrêt d'une première partie de vie, un arrêt de carrière qui a conditionné une partie de notre vie, une partie de nos croyances aussi. Et puis, c'est ce moment au moment duquel il faut basculer sur autre chose, avec pas mal d'appréhension, pas mal de doutes, pas mal d'incertitudes sur une nouvelle vie à construire.
Voilà. Alors, cette nouvelle vie, vous avez commencé à la construire, on peut dire, en 2008, puisque c'est là qu'il y a eu une rupture, puisque vous êtes un ancien joueur de rugby avec une riche expérience. Et en 2008, donc, vous décidez de stopper votre carrière.
Mmh.
Et donc, vous décidez de ne pas repousser cette petite mort. Alors, qu'est-ce qui a été à l'origine de cette décision ?
Il y a beaucoup de choses, mais principalement le rapport à ma famille, dont je parle dans le livre. On y reviendra tout à l'heure. C'est vrai que je me suis conditionné pour le très haut niveau, puisque j'ai fait toute la filière jeune de formation, de haut niveau, dans les sports-études, dans les centres de formation, dans les sélections. Et donc, il y a un moment vraiment critique de bascule où soit on prend le bon wagon du très haut niveau, de la première division, soit on végète un peu. Et moi, je me suis retrouvé là, en deuxième division, à pas avoir franchi ce cap-là, après avoir franchi tous les caps précédents. Et donc, je me suis posé la question de me dire, voilà, est-ce que ce qui est honorable, hein, c'est très honorable, il y a des centaines de joueurs dans mon cas et qui sont professionnels de rugby, qui sont très heureux de l'être en deuxième division et même en troisième division. Mais moi, je me suis dit que c'était trop loin de ce que je projetais, de ce que je pensais être au niveau de ma famille. Et donc, j'ai préféré arrêter assez brutalement parce que j'avais peur que, en continuant dans cette voie-là, qui était une voie confortable finalement, je passe à côté de plein d'autres choses, de plein de belles opportunités dans ma vie d'après.
Voilà. Voilà. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Il y avait aussi, dans l'explication de cette décision, on peut même dire de ces décisions, puisque vous avez décidé aussi de créer une entreprise, vous êtes entrepreneur, vous avez une agence de communication et vous avez diverses activités de chroniqueur, c'est des radios et dans des journaux. Vous êtes aussi, si j'ai bien compris, vous occupez d'activités caritatives. Vous pourriez nous en dire deux mots ?
Oui, j'ai toujours été très sensible aux actions caritatives. Assez vite, quand on a créé l'agence, puisque c'est une agence que j'ai créée avec deux amis qui jouent au rugby à Toulouse, qui s'appellent Vincent Clerc et Grégory Lambolé, qui étaient assez connus en tant que joueurs et qui le sont toujours aujourd'hui, on était très sollicités pour soutenir tout un tas d'actions. On y a toujours été très sensibles. Et puis, on a décidé de franchir le cap en 2021 en créant un fonds de dotation qui est une forme de petite fondation allégée, beaucoup plus facile à gérer. Et ça nous permettait d'avoir beaucoup plus d'impact avec nos actions sur le terrain. Et honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça renforce le sens qu'on doit donner à nos actions. Parce que c'est vrai que même si je suis jeune, je viens de fêter 40 ans. J'ai monté mon agence en 2008. Ça fait 17 ans de vie professionnelle. Donc voilà, c'est des périodes de vie lors desquelles on se demande vraiment ce qu'on peut faire pour notre société. Et donc voilà, moi, ça rejoint aussi le sujet du livre, l'héritage, la transmission. Je suis rentré de plein pied dans la transmission parce que j'ai des enfants. Et puis, j'ai envie de me dire que je fais des choses pour mon clan, pour ma famille, mais j'essaie d'être utile à notre société. Voilà.
Alors on va y revenir en détail dans votre cheminement. Je voulais juste qu'on s'arrête un instant sur le nom Spanghero. Alors pour préparer cette émission, j'ai vu que vos grands-parents étaient originaires d'une ville de l'Italie du Nord et que en première instance, ce sont des gens qui ont émigré en France, mais en Normandie.
Oui, enfin du côté de mon grand-père. Ma grand-mère est arrivée directement dans le sud-ouest, mon grand-père est arrivé dans le nord, et puis il a commencé à travailler dans les mines de charbon. Il a eu très vite la maladie des mineurs qu'attrapaient certains mineurs des poumons. Ses frères également, donc ils ont décidé de descendre dans le sud pour retrouver de quoi vivre différemment et donc de reprendre des exploitations agricoles en fermage. Et c'est là qu'il a rencontré ma grand-mère qui arrivait elle aussi d'Italie avec une histoire quasiment similaire. Et donc ils se sont basés, ils se sont installés définitivement à côté de Castelnaudary.
D'accord. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais juste, je vous le dis pour information. Je me suis renseigné, j'ai vu que le nom Spanghero était particulièrement répandu à Besançon, dans la région de Montbéliard, et puis naturellement en Occitanie.
Alors non, je savais pas parce que je sais qu'en France, il y a très peu de Spanghero quand même, globalement. Et j'ai pas croisé d'autres Spanghero en dehors de notre famille proche ou éloignée en France. Et c'est bon à savoir.
Voilà. Vous avez peut-être des cousins dans le Nord.
C'est possible.
Alors, Philippe Spanghero, vous avez écrit donc au nom du clan, et donc on se pose la question d'emblée, qu'est-ce qui vous en a donné l'idée finalement, et pourquoi vous écrivez ce livre aujourd'hui alors que vous avez 40 ans?
Alors, c'est ce que j'appelle des synchronicités, c'est des petits clins d'œil de la vie qui font qu'on les saisit ou pas. Donc, c'était pour moi le moment de saisir cette opportunité parce que l'idée vient pas de moi au départ. C'est cette question, cette réflexion un peu existentielle sur le rapport à l'héritage. Ce qu'on décide d'en faire, c'est des sujets qui m'intéressent depuis longtemps. Mais j'avais pas du tout cette idée de livre. En fait, il y a un peu plus d'un an, il y a le journal L'Équipe qui m'a appelé pour m'interroger sur la thématique des fils d'eux dans le rugby, puisqu'il y a beaucoup d'enfants de grands joueurs qui aujourd'hui, à leur tour, font des grandes carrières. Et la journaliste que je connaissais a voulu m'interroger pour avoir ma vision de mon rapport à l'héritage, au poids que ça pouvait représenter. Donc je me suis livré entièrement à elle parce que je la connais, j'ai confiance en elle et que j'ai assez travaillé pour verbaliser les choses. Et puis finalement, ça donnait un entretien qui sur le papier était assez fort. Et je ne sais même pas pourquoi dans l'entretien, je dis c'est un sujet qui me passionne, un jour j'en écrirai un livre. Mais j'ai dit ça sans aucune arrière-pensée. Et très vite, j'ai reçu des témoignages de gens qui m'ont dit, écoute, ton histoire est touchante, mais moi, je vais te raconter la mienne. J'ai une histoire de famille particulière. Alors, dans des horizons qui n'avaient rien à voir, dans des univers très éloignés du rugby et du sport. Et donc, j'ai été surpris de voir que spontanément, des gens venaient me livrer leurs histoires. J'aime ça, j'aime les histoires, surtout quand elles sont belles, parce que souvent, c'était de belles histoires. Et puis, très vite, il y a un éditeur qui m'a contacté, qui m'a dit, j'ai vu votre article dans l'équipe, si vous voulez faire un livre, moi, je vous signe tout de suite un contrat. Et puis, un deuxième éditeur. Et là, je me suis dit, bon, ben, maintenant, la machine est en route. Donc, ça ne se représentera peut-être plus. Est-ce que tu es prêt à te poser, à réfléchir un peu différemment à tout ça? Mais moi, j'aime les aventures collectives. Donc, je ne me sentais pas du tout capable de faire un livre sur moi et ma famille. Je ne pensais pas d'abord que ça mérite d'en faire un livre. Donc, j'ai dit à l'éditeur que j'ai choisi, OK, mais moi, je veux explorer ce sujet de la loyauté familiale par des regards très différents, d'histoires familiales qui sont très différentes les unes des autres. Et comme ça, on va aller explorer ce sujet de la loyauté familiale au travers de jolies histoires. Et voilà comment est né ce livre.
Très bien. Alors, vous abordez la question qui est finalement une question identitaire. Notamment au début du livre, vous mettez en exergue la question « Tu es le fils de qui ?» Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette interrogation vous a tant marqué et surtout par quel réflexe vous êtes marqué dans justement la réponse à cette question ?
Mais cette question, en fait, elle m'a marqué très tard. C'est la question que j'ai la plus entendue dans ma vie. Et ce que je dis dans le livre, c'est qu'en fait, elle ne m'a jamais interpellé parce que je savais pourquoi on me l'a posé. C'est-à-dire qu'on est une grande famille, il y a 6 frères, 2 sœurs. Il y a Walter qui est la star de la famille. Et donc, globalement, quand les gens m'interrogeaient, c'était pour me positionner dans la famille, pour savoir de qui était mon père dans les frères, qui était mon père par rapport à Walter. Donc, j'ai jamais été interpellé par cette question jusqu'à récemment où je me suis dit, mais en fait, est-ce que inconsciemment, ça ne m'a pas perturbé dans le développement, dans ma vision de ma place? Parce que elle est étrange, cette question. Tu es le fils de qui? Je la trouve étrange, en fait. Et c'est drôle parce que j'étais, quand la promo du livre a commencé, là, il y a quelques jours, j'étais avec mon éditrice. Et on signait des livres, et puis monsieur arrive tout de suite et spontanément, il me dit « Alors vous êtes le fils de qui ?» Et en fait, elle a souri, elle me dit « Mais c'est vrai, en fait, spontanément, les gens viennent te demander ça. » Et je lui dis « Oui, je vous l'avais dit, c'est le réflexe qu'ont les gens quand ils me voient. » Et elle me dit « Mais c'est quand même très bizarre. » Et je lui dis « Écoute, ça ne m'a jamais interpellé, mais en effet, c'est particulier, voilà. »
Mais ça, quelque part, ça ne vous agace pas parce que c'est mis en avant comme une obligation, une nécessité, c'est incontournable quand on vous pose, quand on veut savoir, quand on connaît votre nom.
Oui, bah alors c'est une obligation. Ce que j'explique souvent, c'est qu'il y a beaucoup de privilèges. Et moi, j'ai compris assez tôt que j'avais de la chance. J'étais quelqu'un de très sensible. Je voyais forcément des choses désagréables autour de moi, des gens malheureux, etc. Et je me suis souvent demandé pourquoi moi j'avais autant de chance. Et j'ai compris très tôt que j'étais privilégié. D'abord, d'ailleurs, ça n'a pas été toujours facile à vivre à une période. Je trouvais ça injuste d'avoir cette chance alors que d'autres en avaient moins. Donc j'ai compris ça. Mais en face de ça, il y a une forme d'injustice où d'abord, il y a des gens qui... sans trop de raison, sont durs, méchants. Et puis, même ceux qui ne le sont pas comme ça spontanément, ils ont un niveau d'attente très élevé. Et notamment, moi, je l'ai vécu dans le rugby, c'est-à-dire quand je faisais des bons matchs, on me disait rarement, c'est bien, c'est super, t'as fait un bon match, parce que, quelque part, c'était normal. Mes oncles, ma famille avaient établi une norme sportive qui faisait qu'être très bon, c'était normal. Et puis, à l'inverse, quand j'étais un peu moins bon... Là, les critiques, c'était pas juste de dire il a pas fait un bon match aujourd'hui. C'était Spanghero, il est nul par rapport à sa famille, il est pas au niveau, voilà. Donc voilà, ça m'a longtemps perturbé parce que je trouvais les gens très durs dans leur jugement.
D'accord. Alors il y a, vous dites que le clan, puisque vous parlez du clan familial, vous dites que vous en parlez souvent comme d'une entité ambivalente. C'est-à-dire que, comme vous venez de commencer à l'expliquer, c'est à la fois quelque chose qui protège, mais c'est quelque chose aussi qui empêche.
Oui, Mais tout au long de la vie, cette question des loyautés, si on la ramène au clan, en fait, le clan a quelque chose de très protecteur, puisque si on revient au temps des premiers hommes, puisque c'est à ça que ramène cette théorie de la loyauté familiale, s'éloigner du clan, c'était risquer sa vie. C'était le clan qui vous protégeait de toutes les menaces extérieures. Donc il y a quelque chose en effet de très rassurant, de très protecteur, mais il y a aussi quelque chose qui peut énormément inhiber. Voilà. Et donc, il y a une frontière qui est ténue, et c'est ce qui m'intéresse dans le livre, l'exploration de cette frontière-là entre trahir et s'émanciper. Voilà. Et en fait, toute la question est là pour moi, c'est-à-dire que il y a plein d'injonctions qu'on reçoit consciemment ou inconsciemment de la part de nos parents qui impactent nos choix de vie, notre vision du monde. Et on se dit, si je vais là, je m'exclurai du clan parce que c'est pas ce qu'attendent mes parents de moi. Alors que c'est peut-être pas vrai. Peut-être que les parents l'ont jamais verbalisé comme ça. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est arriver à des âges comme le mien, un peu plus tard, un peu plus tôt, peu importe. Mais il faut quand même avoir un peu vécu pour être capable d'avoir le recul nécessaire, je pense. De se dire, ok, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, là où je suis, à la place à laquelle je suis, j'y suis en conscience complètement, ou est-ce que j'ai répondu à tout un tas d'injonctions, de croyances entraînées par mon clan qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Voilà.
Alors cette problématique des injonctions, vous faites bien ressortir dans le livre que quand ces injonctions, ça ressemble à du non-dit, quand il y a un rôle du silence au sein du clan, que c'est peut-être pas justement facile à vivre et donc facile à interpréter.
Non, c'est vrai que y a un ou deux témoignages qui font référence justement à cette nécessité de communiquer, parce qu'on se rend compte qu'il y a des erreurs de lecture entre parents et enfants, et c'est toujours lié au non-dit. Donc c'est vrai qu'il y a une ou deux histoires qui font l'apologie de la communication, parce que d'abord ça permet de devenir plus tolérant. Parce qu'on comprend mieux certaines choses. Moi, j'insiste vraiment là-dessus, c'est-à-dire que en essayant vraiment, en ayant la volonté, sans a priori, de regarder d'où on vient, d'analyser son héritage, de savoir ce que nos parents ont fait, comment eux-mêmes ils ont reçu ce qu'ils ont essayé de nous donner, ben, je trouve qu'en fait, on trouve beaucoup d'humilité déjà sur ce chemin-là et beaucoup de tolérance aussi.
Philippe Spanghero, je vous propose d'écouter maintenant Barbara Pravi.
Lève-toi, foule, ne regarde pas le monde qui s'écroule, sans rien faire en pensant qu'à ta gueule, sans bouger, sans t'armer de conscience, ne laisse pas s'installer la violence, le rejet de l'autre et l'ignorance. Que nos voix ensemble se soulèvent et nos mains unies enfin nous relèvent. Lève-toi, foule, montre que dans ton sang, ce qui coule sont des fleuves de temps, de batailles, de libertés arrachées pour que brillent nos visages ensemble, nos pupilles, nos rêves, nos idées. Les larmes sur nos joues sont du sel. Marchons sous le même soleil, la même nuit, la même lune. Lève-toi, fils, si ici nous ne sommes que poussière. Toi et moi, on est enfants d'une seule terre. Fais honneur à tes mères, à tes filles. Fais honneur à tes sœurs.
Et de l'oubli, ne laisse pas l'histoire nous effacer, l'histoire nous effacer.
parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours avec Philippe Spanghero, qui est venu nous présenter son livre « Au nom du clan, entre héritage, transmission et loyauté ». Philippe Spanghero, vous avez choisi une chanson qui s'intitule « Lève-toi » de Barbara Pravi. Vous pouvez nous expliquer pour quelle raison ?
Elle résonne en moi, cette chanson. Je trouve que d'abord, y a des mots forts, puisque... Elle fait référence au père, à la mère, aux sœurs. Donc elle parle de cette nécessité aussi de regarder qui sont les gens qui nous entourent. Il y a ce rapport à la famille qui est important. Et puis au-delà de ça, je trouve que c'est un beau message de société. Il est question de tolérance, de vivre ensemble, de nécessité aussi d'être dans l'action, de se lever. Et de pas subir, d'être actif dans le bienfait ou l'amélioration de notre monde. Donc voilà, je l'aime beaucoup.
Alors revenons à votre livre. Donc vous nous avez expliqué cette notion d'ambivalence du clan et donc la nécessité, en quelque sorte, de prendre une décision qui peut être formulé sous le fait de dire se faire un prénom, c'est-à-dire essayer de construire son propre chemin tout en profitant, tout en conservant l'héritage. Alors vous avez pris conscience, il y a deux événements particuliers qui vous ont fait prendre conscience de ces aspects-là des choses, de tracer son propre chemin, de faire des choix. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ?
Ben, y a un événement marquant, forcément, c'est la perte de ma mère. J'avais 32 ans, c'est plutôt jeune pour perdre sa maman. C'est allé assez vite, on lui a diagnostiqué un cancer et elle m'a demandé de l'accompagner à sa première chimiothérapie. Et là, c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué parce que dans la salle avec elle, il n'y avait que des gens de ma génération. Et là, je me suis senti vulnérable pour la première fois. Je me suis dit, ça peut t'arriver demain. Et pourquoi je ne m'étais pas posé la question avant, je ne sais pas. Mais là, ce jour-là, ça m'a vraiment marqué. Et donc, en rentrant dans ma voiture, je me suis dit, bon, d'accord, si demain ça t'arrive, quel bilan tu tires de ta vie ? Est-ce qu'aujourd'hui, la place à laquelle tu es est la bonne ? Est-ce que tu as fait tes choix en conscience ? Et donc, ça a amené tout un tas de questions et qui m'ont amené à travailler un peu sur moi-même. Voilà.
Alors, on refait un petit retour en arrière. Vous nous avez expliqué donc tout à l'heure comment vous en êtes arrivé à écrire ce livre et à votre choix qui était de dire « Je ne vais pas raconter ma vie, mais je veux aller vers les autres pour voir comment cette problématique peut être ressentie par d'autres que moi. » Et donc, vous avez choisi, j'allais dire, 10 autres héritiers, c'est 10 autres personnes qui ont un parent célèbre, et vous avez été les voir. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord nous dire rapidement quelles sont ces personnes et comment vous les avez choisies ?
Oui. Alors, ce qui est intéressant d'abord, c'est que tous n'avaient pas des parents célèbres. Ils avaient... la croyance qu'ils avaient un héritage à assumer, et ça les a guidés. Mais par exemple, Gérard Bertrand, qui est aujourd'hui un des plus grands producteurs, viticulteurs français reconnus dans le monde, son père avait, sa famille avait un tout petit domaine dans les Corbières, et aujourd'hui il en a fait un empire. Donc lui, il était héritier de rien, entre guillemets, si ce n'est d'une ambition. Voilà. Alors, il y a Gérard Bertrand, il y a les frères Karabatic, Nicolas et Luca, les joueurs de hand. Il y a Ariane Daguin, qui est la fille de André Daguin, qui était un des grands chefs étoilés de l'époque. Il y a Alexandra Fechner, qui est la fille de Christian Fechner, qui était le plus grand producteur de cinéma français des années 70-80. Vous avez aussi Pierre. Alors, Pierre, c'est un prête-nom, puisqu'il est encore en activité, qui est un commandant du GIGN. Lui aussi n'avait pas des parents célèbres, mais un héritage militaire à assumer. Emmanuelle Galabru, la fille de Michel Galabru, bien sûr. Et j'oublie qui dans tout ça, j'ai plus la liste sous les yeux. Cyril Laudet, qui est aussi agriculteur, viticulteur à la frontière entre le Gers et les Landes, qui a une très belle histoire de famille, huitième génération à prendre le relais de cette terre-là, de Labal, un lieu qui s'appelle Labal. Donc voilà les personnalités. Et donc je les ai choisis. Et Laurent Tapie, bien sûr, Laurent Tapie, le fils de Bernard.
Et Marie Tabarly.
Et Marie Tabarly. Et Marie Tabarly. Voilà, donc il y en avait que je connaissais. Et je pensais connaître leurs histoires et elles me paraissaient être intéressantes à raconter. En fait, je me suis rendu compte que quand vraiment on est rentré dans le vif du sujet, ben, je connaissais finalement très mal leurs histoires. Et puis, il y a d'autres histoires, soit qu'on m'a livré, de gens qui savaient que j'étais en train de travailler sur ce projet, qui m'ont dit, tiens, là, il y a quelque chose à creuser parce que moi, je connais cette personne qui a vraiment des choses à te raconter. C'était le cas de Cyril Laudet. Mon père, pour Gérard Bertrand, m'a dit vraiment, Gérard, tu penses connaître son histoire, mais il y a vraiment des choses intéressantes à raconter. Et puis Emmanuel Galabru, c'est une amie commune qui m'a dit, tiens Emmanuel, je pense qu'elle a des jolies choses à raconter sur son rapport à son père. Et donc voilà comment ça s'est fait. Et puis finalement, ça donne quelque chose, je trouve, de joli, parce que c'est des histoires très différentes les unes des autres, mais il y a quand même ce fil rouge. De la capacité qu'ils ont eue, qu'ils et elles ont eue, à rester dans une forme de loyauté tout en trouvant leur propre chemin et une forme d'émancipation. Et donc finalement, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on permet avec leurs histoires de répondre à ces questions liées à la loyauté familiale avec une bonne chute. Voilà.
Donc vous dites que ces personnes ont pour dénominateur commun le fait d'avoir construit un cheminement qui leur est propre dans le cadre du respect de la loyauté familiale, mais en trouvant des solutions originales en fonction de leur secteur d'activité et en fonction de leur personnalité. Alors, c'est une démarche quand même qui est très, très personnelle. Est-ce que ces gens, sur le principe, ont vite accepté de se confier, d'une part, et d'autre part, de dire « je me confie » en vue de la publication d'un livre?
Très étonnamment, oui. À part Marie Tabarly, parce qu'on ne se connaissait pas, même les autres que je ne connaissais pas spontanément m'ont dit « ok, sans trop me poser de questions ». Marie Tabarly était un peu plus méfiante, ce que je comprends. Et donc, il a fallu que j'aille la voir. Et puis, une fois qu'on a échangé pendant une demi-journée, elle m'a dit OK. Voilà. Mais vraiment, c'est étrange ce sujet-là parce que je me suis rendu compte que ça libère la parole très facilement. Je me rends compte que spontanément, les gens ne se posent pas ce genre de questions, mais que ça leur fait du bien. Donc en fait, on s'est fait du bien mutuellement parce que moi, je pense leur avoir fait du bien en leur posant des questions et en interrogeant leur loyauté comme ils ne l'avaient certainement jamais fait pour certains. Donc, ça les a amenés sur un chemin qu'ils ont trouvé intéressant. Et moi, à l'inverse, avec leurs réponses, ben, ça a nourri mes réflexions à moi, ça a nourri le projet du livre. Donc, c'était plutôt très intéressant.
Alors, je crois, d'après ce que j'ai entendu ou de ce que vous m'avez dit en préparant cette émission, que vous avez procédé à une enquête de manière très professionnelle et vous avez tenu absolument à ce que ce soit vous qui soyez en direct pour recueillir la parole de ces gens.
Oui, je ne suis pas écrivain professionnel, donc j'ai écrit un livre il y a 2 ans sur le rugby, donc avec les éditions Le Robert. Je pensais savoir écrire, du coup, puisque j'avais fait un livre. Mais en fait, je me suis rendu compte, là, en commençant celui-ci, que je ne savais pas. Parce que dans le rugby, j'étais dans ma zone de confort, tout est venu assez naturellement. Et puis, il n'y avait pas d'émotion à retranscrire, c'était beaucoup plus factuel. Là, l'éditeur m'a proposé de mettre quelqu'un à côté de moi pour m'aider à écrire. Ça avait un côté rassurant, mais je me suis dit non, parce qu'en fait, là, je vais vraiment avoir besoin d'aller chercher des choses assez profondes chez les uns et les autres. Donc, je ne peux pas y aller avec quelqu'un avec moi. Il faut à tout prix que je sois en tête à tête. Et donc, si quelqu'un m'aide à écrire, si je dois lui retranscrire ça, il y a des choses qui sont très dures à retranscrire, la façon dont une relation s'installe, où il y a des choses, il y a le non-verbal qui rentre en jeu aussi, avec Marita Barli, avec les frères Karabatic, avec ça, il y a eu des moments assez forts. Donc, c'est pas, c'est très dur à décrire, à retranscrire. Donc, j'ai préféré m'y jeter tout seul, me jeter à l'eau. Et voilà, donc ça a été un peu long. Ça a été anxiogène parfois, parce que quand je sortais d'entretien qui était plutôt puissant dans le contenu, je me demandais comment j'allais réussir à retranscrire ça à l'écrit. Je ne sais pas si j'y suis arrivé. En tous les cas, eux sont contents de ce que j'ai délivré, puisqu'ils ont dû valider chacun leur texte et ils m'ont tous dit que c'était plutôt joliment écrit et que ça mettait bien en valeur leurs histoires. Donc je me dis que j'ai déjà gagné mon pari.
Question un petit peu technique, pendant les entretiens, vous preniez des notes, comment ça se passait?
Les deux, j'enregistrais pour être sûr de... Mais j'aimais bien avoir des notes en plus. Donc en général, je faisais un premier gros entretien. Ensuite, à chaud, j'écrivais la trame pour rester un peu dans l'émotionnel. Et je leur faisais valider la trame pour être sûr que la trame soit plutôt correcte. Et il y a eu quelque chose, des choses à modifier, que je n'avais pas forcément bien compris sur des dates, des moments de vie, etc. Et quand la trame était OK, je refaisais un entretien pour affiner vraiment autour et construire autour de cette trame-là.
Et vous avez eu combien de temps, enfin vous avez mis combien de temps pour faire toutes ces enquêtes?
Entre les enquêtes, les rédactions, les allers-retours avec l'éditeur, c'est 10 mois.
Dis-moi,
Dix
oui.
mois.
Philippe Spanghero, je vous propose maintenant d'écouter Michel Sardou.
Il était là dans ce fauteuil, mon spectateur du premier jour, comme un père débordant d'orgueil pour celui qui prenait son tour. Il était là dans ce fauteuil, premier témoin de mes faux pas, le cœur tremblant comme une feuille, croyant que je ne savais pas. Il était là sur ma galère, lieutenant de la Providence, m'envoyant des ondes légères comme le ciel de sa province. Il était là dans ce fauteuil qu'il a loué pour l'éternité, pour m'applaudir du coin de l'œil et de temps en temps rigoler. Petit, tu m'as fait bien plaisir, tu m'as rappelé ton grand-père. Entre ses larmes et son sourire, il n'y avait pas de frontière. Il était là dans ce fauteuil, quand j'ai fait ma première grimace, quand j'ai osé montrer ma gueule aux petits copains de ma classe, plein de pudeur et d'indulgence pour la violence de mes passions, pour cette belle intransigeance que suivraient tant de concessions. Il était là dans ce fauteuil.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Toujours au nom du clan avec Philippe Spanghero. Michel Sardou, il était là dans ce fauteuil. Il était là dans ce fauteuil, mon spectateur du premier jour, comme un père débordant d'orgueil pour celui qui prenait son tour. Ça vous parle, ça vous rappelle des situations?
Ouais, alors ça me parle beaucoup parce que, en plus, au-delà de me rappeler des situations par le texte, mon père l'écoutait beaucoup. Donc, enfin, écoutait beaucoup Sardou. Et c'est vrai que celle-là, elle m'a marqué assez jeune. Ben, pour moi, les paroles, elles font le lien magnifiquement avec le sujet dont on parle. C'est-à-dire que on est là, on se place par rapport au regard du père. Et puis, la fin de la chanson, c'est ce fauteuil où mon fils aîné va s'asseoir. Donc, là, on est d'héritage en transmission en plein.
Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les résultats de cette enquête et surtout les conclusions que vous en avez tirées. La première conclusion, c'est de dire que finalement, cette notion de loyauté familiale qui s'impose à chacun, finalement, c'est quelque chose un peu d'universel.
Ah oui, c'est complètement universel et c'est ce que j'ai compris au fil du livre. En fait, quand j'ai travaillé, puisque la postface du livre est rédigée par une psychologue qui essaie de vulgariser ce sujet de la loyauté familiale. Et en fait, la loyauté familiale, ça fait appel à notre cerveau reptilien. Donc, on est vraiment dans l'inconscient. Et ce cerveau reptilien, justement, du temps des premiers hommes, où la notion de clan, c'était la notion de survie. Et donc, on est encore ramené à ça quand il s'agit de la loyauté familiale, sur cette difficulté qu'on a à s'éloigner de son clan, même parfois quand on ne se sent pas à notre place. Et donc, ça ramène à ça. Voilà.
Et alors, vous dites que cette loyauté familiale, c'est une sorte de loi liée à un sentiment d'appartenance, c'est lié à la notion de mythe familial. Et dans le livre, vous développez, notamment à la lumière des propos de cette psychologue, la notion de loyauté au pluriel. C'est-à-dire que dans la loyauté familiale, il y a plusieurs types de loyauté. Alors, vous pourriez nous expliquer un petit peu quels sont les types de loyauté, puisque vous parlez de reconnaissance, de loyauté à toute la famille, de loyauté à ses passions et de loyauté au sens propre du terme, c'est-à-dire ne pas trahir.
Oui, il y a la loyauté, qui est la loyauté chapeau, et puis ensuite il y a des loyautés en fonction de nos contextes propres, c'est-à-dire la loyauté de réussite professionnelle, la loyauté de réussite sportive, la loyauté de reconnaissance du grand public, pour certains de mes invités, de mes témoins. Donc il y a tout un tas de loyautés, mais qui sont très liées à nos contextes propres. Et il faut savoir interroger ça, je trouve, à des moments de vie, pour savoir par quoi on a été guidé. Est-ce que c'était des envies profondes qui nous ont menés là où on est, ou est-ce que finalement on s'est trop peu écouté et qu'on s'est laissé guider par des injonctions de loyauté?
Alors, dans votre cas personnel, lorsque vous décidez, à la suite de l'analyse de la situation que vous faites, de dire, bon, le monde du rugby, maintenant, il faut que je fasse autre chose. Alors, il y a une réflexion par rapport à cette loyauté, est-ce que je quitte le rugby? Et puis, il y a aussi peut-être la loyauté par rapport au fait de dire, dans quel secteur je veux me tourner, qui correspond sans doute à mes passions ou à mes aspirations profondes. Alors, comment ça se passe à ce niveau-là?
À ce niveau-là, là encore, je pense que je me suis conditionné en me disant que je voulais être entrepreneur parce que je suis né dans une famille d'entrepreneurs et j'ai même jamais réfléchi la chose différemment. Par contre, la vraie question, je pense qu'on est tous un peu dans le même cas. Des enfants de médecins, de notaires, c'est des professions qui se transmettent beaucoup de parents à enfants. Et je pense qu'on est tous dans le même cas. On y va un peu tête baissée parce que on n'a pas eu assez de hauteur pour se poser la question de savoir si autre chose nous plairait. Mais par contre, il y a des moments de vie où il faut savoir si on est à notre place. Et moi, c'est vrai que là où ce qui m'apaise aujourd'hui, c'est de me dire que je l'ai fait peut-être par mimétisme, mais en tout cas, aujourd'hui, je sais que j'aime la place à laquelle je suis, que je crée des projets, j'embarque des gens avec moi dans des aventures professionnelles, on vit des aventures collectives, ça me permet de greffer les parties prenantes de mes activités professionnelles dans une vision aussi d'impact avec mon fonds de dotation pour mener des actions caritatives. Je suis resté dans le rugby quelque part avec des actions bénévoles pour la Fédération française de rugby et puis à la radio tous les week-ends. Donc j'ai l'impression que finalement, sans l'avoir calculé, mais tout s'est imbriqué de telle façon que j'ai l'impression que tout se marie là aujourd'hui exactement comme il faut.
Et qu'il y a un certain équilibre qui s'est recréé finalement.
Oui.
Alors, dites-nous, vous avez des frères, vous avez des cousins. Eux, face à cette problématique, comment ont-ils réagi?
Ben, honnêtement, je sais pas trop, parce que je pense que le livre va libérer un peu la parole. Mon grand cousin, le fils aîné de Laurent, qui est l'aîné des frères Spanghero, et était là jeudi à la présentation du livre à Paris, on en a parlé un peu. C'est la première fois qu'on en parlait, c'était déjà intéressant. Les autres cousins, j'ai pas eu l'occasion d'en parler avec eux. Après, je ne sais pas s'ils ont vécu la même chose que moi, parce qu'il y a ce sujet de la loyauté au rugby aussi. Et en fait, mon frère aîné, moi, Nicolas, qui a presque 10 ans de plus que moi, a fait une très belle carrière. Et lui, il est passé partout avant moi, là où je suis passé ensuite. Donc, il y a eu ce rapport de comparaison à la famille, à mes oncles, à mon père. Mais moi, plus près de moi, il y avait la comparaison à mon frère. Et ça rajoute encore. C'est-à-dire que mon frère, c'est celui de tous les cousins qui a fait la plus belle carrière. Donc, il y avait ce rapport aussi à mon frère, qu'ont pas eu mes cousins. Donc, mes cousins, eux, ils avaient que la comparaison à leur père. Mais moi, il y avait mon oncle, mon père, mon frère. Donc, je dis pas que c'est pire, mais dans mon contexte à moi, ça rajoutait encore quelque chose à la question de la loyauté.
D'accord. Mais vous décidez d'écrire ce livre, c'est un sujet que vous avez à l'esprit depuis un moment. Vous n'avez pas eu soit l'idée, soit ressenti la nécessité d'en parler à l'intérieur de votre famille avant de vous lancer dans cette aventure?
Non, non, non. C'est des sujets compliqués quand même. Hein. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de pudeur dans les familles, notamment dans l'échange avec les frères Karabatic. C'est Luca, le petit frère de Nicolas, qui m'en parle. Ils ont perdu leur papa en étant jeunes. Et ben, quand arrive la perte, arrivent les questions. Et là, on regrette de ne pas avoir dit ce qu'on avait sur le cœur, de ne pas avoir poser les questions qu'on avait envie de poser. Donc voilà, il y a toujours beaucoup de pudeur. Moi, j'ai pas ressenti ce besoin de verbaliser ça auprès de ma famille avant. C'est quelque chose que je vis assez bien, moi. Je ne suis pas torturé par ça. Donc, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai juste dit à mon père et à mon frère que je voulais faire ça. Je leur ai fait valider la partie dans laquelle je parle de notre histoire. Je ne voulais pas qu'ils apprennent ça en même temps que tout le monde. C'était pas normal. Et à partir du moment où ils m'ont dit que ça leur allait, j'étais complètement libéré.
Et donc, même par curiosité, ça ne vous a pas intéressé d'en parler auparavant avec eux. Je veux dire, en disant, moi je pense, c'est la démarche que je veux avoir, je pense que c'est bien de le verbaliser, mais vous n'avez pas eu même, ne serait-ce qu'au niveau d'une certaine curiosité, en disant, les frères, les cousins, qu'est-ce qu'ils en pensent sur ce sujet? Donc,
Non.
vous avez, comment dire, déclencher une démarche dans laquelle vous étiez quand même un peu en solitude.
Oui, j'étais seul dans la démarche, mais je vois que c'est plutôt bien accueilli et je pense que ça va libérer un peu la parole. Honnêtement, ce serait mon plus beau cadeau, que ce soit dans ma famille ou ailleurs. Je commence à recevoir des messages, des premiers lecteurs, et honnêtement, c'est le plus beau des cadeaux. C'est quand des gens vous disent que vous avez nourri leur réflexion, que certains ben, vous les avez apaisés parce que ils manquaient un peu de tolérance vis-à-vis de leur héritage et ils ont compris qu'il fallait réussir à l'être pour être un bon transmetteur. Quand vous avez ce genre de message, vous dites que le boulot est fait.
Ça va être peut-être symboliquement, en quelque sorte, une contribution de votre part à un héritage,
Oui,
hein, pour la.
j'espère. J'espère, je parle un peu de mes filles dans le livre et je dis que voilà, moi j'ai la chance d'avoir des enfants. Je m'interroge beaucoup sur cet enjeu de transmission quand on n'a pas d'enfants, puisqu'on est forcément orienté dans une transmission beaucoup plus macro, c'est-à-dire un rapport au monde. Mais voilà, aujourd'hui, ben oui, j'ai bien interrogé mon héritage. J'ai bien interrogé mes loyautés et je pense que j'ai une base solide et une lecture cohérente pour être en capacité de transmettre. Après, c'est tout ça, c'est ça se construit au jour le jour. Mais en tout cas, il y a une volonté de transmission qui est forte.
Alors vous avez une expression particulière qui est dire il faut essayer d'hériter en conscience.
Oui.
Vous pouvez nous l'expliquer?
Ben, hériter en conscience, c'est-à-dire que ça revient à être acteur de la compréhension de ce qu'on a vécu et de conscientiser tout ça, de le remettre en perspective des époques, de le remettre en perspective des environnements. Voilà, parce que j'ai lu une citation que j'ai perdue, mais qui dit que, grosso modo, pour être en capacité de transmettre, on est en capacité de transmettre que quand on a accepté de se sentir pleinement héritier. Voilà. Et je trouve que c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'il y a cette nécessité de conscientiser son environnement propre pour savoir ce qu'on a vraiment envie de faire de ça. Est-ce qu'on a envie de léguer ça? Est-ce qu'on a envie d'en léguer un bout ou pas du tout? Et c'est la question fil rouge de nos vies.
Alors c'est cela, effectivement, qui transparaît dans votre livre. Et paradoxalement, vous vous référez à un concept qui est développé dans le livre par Sylvie Tenenbaum et qui parle d'un héritage qui se transmettrait, une partie d'héritage qui se transmettrait d'inconscient à inconscient. Donc il y a aussi quelque chose qui se fait sans forcément... une conscientisation établie.
Oui, parce qu'il y a aussi une transmission, un héritage génétique. Et elle en parle, Sylvie Tenenbaum, dans sa partie. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne, en compte dans les loyautés familiales. Il y a du conscient, de l'inconscient. Mais par contre, ce qu'elle dit aussi, que je trouve très intéressant, c'est que quand elle commence une thérapie avec quelqu'un, elle fait un très gros travail d'interrogation de cet héritage. Et donc, on essaie de conscientiser l'inconscient. C'est ça l'enjeu. Donc, après, c'est plus ou moins profond et plus ou moins difficile. Avec mon livre, on ne fera pas un travail de psy. Mais par contre, d'allumer la lumière chez certaines personnes qui se diront, tiens, je vais faire ce travail maintenant d'essayer de comprendre un peu comment j'ai grandi, comment j'ai été élevé, de quelle façon ça m'a formaté quelque part, et est-ce que là où j'en suis aujourd'hui, c'est mon libre arbitre qui m'y a amené, ou est-ce que c'est des injonctions que j'ai pas forcément perçues?
Alors c'est clair, c'est tout l'intérêt de votre livre, effectivement, face à ces témoignages et face à votre réflexion, que tout le monde puisse être en position d'amorcer la réflexion sur le sujet. Mmh. Alors juste une petite boutade, à Sylvie Tenenbaum dit que l'influence se transmet d'inconscient à inconscient sur 3 générations, ce qui veut dire que vos enfants ne risquent plus rien par rapport au rugby.
Alors, je ne sais pas, j'ai 2 filles, donc le rugby féminin se développe beaucoup, mais ce qui est très drôle, et je me suis rendu compte d'à quel point... Ces questions, elles sont délicates. Je parle quasiment jamais de rugby. Mes filles savent que c'est une partie de ma vie. Elles me voient le week-end partir à la radio, commenter les matchs, etc. Mais ça ne fait pas partie de mon quotidien. Je ne joue plus. Et ma petite, il n'y a pas longtemps, je la sentais très embêtée. Elle me dit, papa, il faut que je te parle. Je lui dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, tu sais, papa, je crois que je voudrais jamais jouer au rugby. Mais elle était... Elle était très embêtée d'avoir à me dire ça. Et donc, voilà, sans que je lui ai jamais verbalisé le fait que je voulais qu'elle joue au rugby, elle était en train de se construire à 8 ans ou 9 ans en se disant que je serais triste qu'elle ne joue pas au rugby.
Et donc, elle n'est pas restée dans le non-dit.
Elle n'est pas restée dans le non-dit.
Alors, on a compris que ça avait un petit peu changé la nature de vos liens à l'intérieur du clan, mais que peut-être et certainement ça allait... au futur, changer encore plus, puisque probablement les langues devraient se délier à ce sujet-là.
Ben, j'espère. Alors honnêtement, on vit plutôt bien dans la famille avec nos héritages, mais c'est toujours intéressant de réfléchir, parce qu'on a grandi finalement les uns avec les autres, on se voyait souvent, mais on n'a pas vécu nos quotidiens. Donc moi, ça m'intéresserait en effet que mes cousins, mes cousines me disent, bah, tiens, tu vois, par rapport à ce que tu dis dans ce livre-là, moi je l'ai vécu comme ça, ça on n'en a jamais parlé entre nous, non.
Alors toujours est-il qu'on sent vraiment que ce projet, cette démarche, ça vous a apporté sur le sujet un réel apaisement. Finalement. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura une suite à ce livre?
C'est drôle parce que, en fait, pour moi, en rendant ce livre-là, pardon, il n'y avait pas de suite, mais très vite, on m'a proposé des profils. On m'a dit, voilà, Anthony Delong a une très belle histoire, ça pourrait l'intéresser, tu devrais le contacter. Le fils de Daniel Balavoine, Jérémy Balavoine, qui vient d'avoir 40 ans et qui vient d'accepter de reprendre le nom de Balavoine parce qu'il fait de la musique et il trouvait ça trop dur à porter. Il a jamais voulu s'appeler Balavoine jusqu'à aujourd'hui. Il a eu beaucoup de mal à vivre avec cet héritage. Voilà, il y a la petite fille du commandant Cousteau qui a repris la fondation Cousteau avec beaucoup d'énergie. Donc, j'ai déjà une liste de témoins potentiels magnifiques.
Bon, mais écoutez, Philippe Spanghero, dès que la suite sera prête, vous nous faites signe.
Parfait.
Philippe Spanghero, donc, merci beaucoup d'être venu nous présenter votre livre Au nom du clan, entre héritage, transmission et loyauté, qui est paru donc cette année aux éditions Alizio. Merci aux auditeurs, merci à tous et bonne lecture.